Israël aujourd'hui, ah, je parle vraiment de aujourd'hui, est en grande célébration à cause de la libération de Gilad Shalit. Bien sûr, le peuple palestinien peut-être aussi est en joie parce qu'ils savent que bientôt il y aura des centaines de prisonniers libérés. Cela ne doit pas cacher le fait que nous sommes encore très loin, très très loin de cette reconnaissance mutuelle qui est l'unique clé de la paix, de la justice, hein, de la prospérité pour les deux parties. Maintenant, si l'adhésion des Palestiniens à l'ONU peut promouvoir cette démarche vers la paix et la justice, je suis pour. On va voir, hein, on va voir. J'aimerais bien que de l'autre côté, le côté israélien, nos chefs politiques commenceront à parler un langage qui soit aussi un langage en recherche d'un respect mutuel, une reconnaissance mutuelle, une acceptation mutuelle.
Et cette recherche d'acceptation mutuelle doit passer par le dialogue ?
Absolument. Il n'y a pas un autre moyen. Pour le moment, je pense que tout le monde est un peu en désillusion. On parle d'autres moyens, mais je pense en fin de compte, ce qui est le plus important est qu'il y aura un dialogue, pas seulement entre les chefs, parce que cela ne peut pas rester là. Ce dialogue doit être entre toutes les parties dans le conflit, et spécialement que les deux peuples soient en dialogue, que des amitiés peuvent se nouer entre Arabes et Juifs en Israël. Ce n'est pas impossible. Il y avait des temps dans l'histoire où les Juifs et les musulmans ont vécu en paix, que les Juifs et les chrétiens dans le monde arabe, comme deux minorités dans les pays musulmans, ont eu des liens très très proches d'amitié et de collaboration. Ce n'est pas une impossibilité. Une des choses que je crois est très importante est d'aller rechercher dans le passé d'autres modèles de relations. Pour des centaines d'années, il y avait une population très importante des Juifs qui ont été de langue arabe. Comme il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont arabes, il y avait des juifs qui ont été arabes. Il ne faut pas penser que toujours il y avait le conflit. Parce que si on pense que toujours il y avait le conflit, peut-être on perdra espoir qu'un jour il y aura un après-conflit. Je pense que l'histoire a beaucoup à nous apporter pour construire un pont entre ces périodes de coexistence pacifique et même collaboration culturelle, économique, sociale, hein, un pont entre un passé de collaboration et un avenir où le monde semblera être très, très différent de ce qu'il est aujourd'hui.
Et alors, vu votre position, est-ce qu'il n'est pas encore plus difficile d'être au cœur du conflit israélo-palestinien ?
Bien sûr, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est plus difficile ou moins difficile, mais c'est compliqué parce que nos fidèles font partie de la société israélienne de langue hébraïque juive. La majorité des fidèles de l'Église catholique font partie plutôt du côté arabe. Ça veut dire qu'un de nos défis très grands, c'est de trouver les bonnes paroles pour parler du conflit. Ce n'est pas très simple. Nous ne pouvons pas, je crois, comme chef religieux, utiliser un langage de slogan qui est très très commun dans la vie politique. Il faut trouver les moyens de parler en vérité de ce qui est la situation. Et nous faisons, je crois, déjà des grands efforts toujours de chercher les chemins qui mènent vers le dialogue. Nous savons bien, en tant que chrétiens en Terre Sainte, que le futur, l'avenir des chrétiens en Terre Sainte est lié, sans aucun doute, à la question de la paix. Nos chrétiens veulent partir, la majorité, spécialement ceux de langue arabe, parce qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la justice, il n'y a pas une situation qu'eux, ils peuvent proposer à leurs enfants. Et pour cela, ils cherchent à partir.
Est-ce que vous pensez que les chrétiens qui sont en terre d'Israël peuvent jouer le rôle d'intermédiaire, mais dans le bon sens du terme, peuvent peut-être apaiser les deux parties et leur rappeler qu'elles doivent avant tout communiquer ?
Je pense que les chrétiens en Terre Sainte, en Israël, en Palestine et dans tout le Proche-Orient, ont un rôle très important à jouer. Je pense que c'est plutôt par leur témoignage. Les chrétiens sont dans les marges, Ah, en Israël, les chrétiens sont presque invisibles. Mais je pense que nous avons un devoir de prier, un devoir de vivre quelque chose de différent et un devoir de parler au moins entre nous et après avec un monde qui peut-être va nous écouter dans un langage qui est très différent du langage du conflit. Nous sommes appelés à déjà formuler un langage qui soit de l'après. Un langage de respect, un langage de justice, un langage de réconciliation et bien sûr un langage de pardon. Cela manque énormément dans le langage politique du conflit, c'est le pardon. Cela peut-être est un message absolument central dans l'enseignement de Jésus. L'homme crucifié qui pardonne ceux qui le crucifient, cela est un langage qui nous a beaucoup à enseigner pour parler autrement dans notre situation de conflit. Le pape Benoît XVI est venu chez nous et il a enseigné dans 27 discours magistraux la vision de l'Église qui touche Israël, Palestine, les Arabes, les Juifs, le dialogue interreligieux entre Juifs, chrétiens et musulmans. Je pense que l'Église a un rôle très important. Un rôle pas seulement de modération, mais aussi d'une pensée prophétique qui parle autrement de la réalité, mais pas uniquement de la réalité, aussi de l'espoir. L'Église toujours montre avec le doigt là où nous allons. Et nous allons à un après-conflit, même si on ne le voit pas actuellement à cause d'un manque de vision de nos chefs politiques. Et il y a un vrai manque de vision de nos chefs politiques de tous les côtés. L'Église doit montrer avec le doigt l'espoir et un avenir après conflit.